OK. Donc, on a terminé la première question qui est la question de la non-rétroactivité. On a vu le principe, on a vu les exceptions aussi. Il faut voir l'autre pendant, mais en fait, ça va avec. Non-rétroactivité, ça veut dire qu'elle ne joue pas sur le passé. Ensuite, effet immédiat, ça veut dire que par contre, dès qu'elle entre en vigueur, elle joue pour tout ce qui va suivre. Voilà. Donc, évidemment, c'est paragraphe 2, pas paragraphe 1. Il y a une faute de frappe sur la slide. Paragraphe 2 sur l'effet immédiat de la loi nouvelle. L'effet immédiat de la loi nouvelle. Là encore, il faut envisager et le principe et l'exception. Le principe, on va le détricoter de la même manière qu'on a détricoté le principe de non-rétroactivité. On a dit précédemment, si je reprends, quand vous allez le bosser chez vous, faites des parallèles entre les slides. C'est comme ça que vous comprendrez le mieux. Là, sur la non-rétroactivité, on a expliqué la loi nouvelle ne peut pas s'appliquer à la Constitution ou à l'extinction. S'il y en a qui veulent venir à la chaire pour faire la dernière heure à ma place, je n'ai pas de soucis. Hein. Et je ne suis pas certaine. Donc, on a vu que sur la non-rétroactivité, la règle, la première application, c'était de dire la loi nouvelle, elle ne vient pas s'appliquer à la Constitution, à l'extinction d'une situation juridique qui lui est antérieure. A contrario, la loi nouvelle s'applique à la Constitution ou à l'extinction d'une situation juridique qui lui est postérieure. C'est pour ça que je vous dis que pour bien piger, il va falloir d'abord faire des schémas et ensuite, à mon avis, mettre les slides en parallèle les unes des autres. Vous voyez que là, du coup, on a notre entrée en vigueur de la loi nouvelle, puis la constitution d'une situation. Ou alors, l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, puis l'extinction d'une situation. Dans ce cas-là, c'est la loi nouvelle qui s'applique. Donc, en fait, comme pas souvent, mais parfois en droit, la formulation est complexe. Quand vous lisez les règles, la loi s'applique immédiatement à la constitution, à l'extinction d'une situation juridique postérieure à son entrée en vigueur. Voilà, on a l'impression qu'on ne va jamais s'en sortir. En fait, c'est relativement simple. Vous me placez sur un brouillon à chaque fois que vous avez des questions de droit transitoire à traiter, le moment de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle et les faits qui sont concernés. Et en fait, est-ce qu'ils sont avant ou après et est-ce qu'on est dans le principe ou dans l'exception? Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Si les faits sont avant et qu'on n'est pas dans un des cas d'exception qu'on a vu là, si les faits sont avant la loi nouvelle, alors c'est la loi ancienne qui s'applique. A contrario, si les faits sont après la loi nouvelle, alors c'est la loi nouvelle qui s'applique, sauf l'exception qu'on verra ensuite. Mais donc vous voyez, finalement, il faut le regarder comme ça. C'est-à-dire, à chaque fois, au lieu de vous prendre la tête, ça ne sert à rien. D'apprendre par cœur des formules comme ça, la loi nouvelle s'applique immédiatement à la Constitution, à l'extension. Voilà, vous allez connaître les mots par cœur. Pas compris un iota de ce que ça voulait dire, mais ça veut dire que vous pouvez sortir la formule de juriste et la dire. On s'en fiche. Moi, en intro, en tout cas, je m'en fiche. Je préfère mille fois un étudiant qui va le dire correctement, avec des termes plus simples, qu'un étudiant qui va m'apprendre les formules par cœur et qui ne sait pas l'appliquer dans un cas pratique. Ça ne m'intéresse pas, je m'en fiche. C'est pas ça qui fait un juriste, encore une fois. Si vous avez l'impression que ces formules-là, qui sont effectivement un peu lourdes, mais parce que, en fait, tous les mots sont essentiels, ces formules-là, elles sont trop lourdes pour vous, laissez de côté. Apprenez les schémas. Voilà. Faites-vous des schémas, prenez-vous des situations, faites-vous des schémas. La formulation technique, elle vous viendra naturellement quand vous aurez pigé comment ça fonctionne. C'est toujours dans ce sens-là qu'il faut le prendre. Essayez de simplifier le droit au lieu de, comme ça arrive parfois, vous auto-congratuler d'avoir appris par cœur des termes techniques. Ça, encore une fois, n'importe qui peut le faire. Hein. C'est pas là-dedans que réside ni l'enjeu ni l'intérêt de l'apprentissage du droit. Apprenez comme vous voulez. Si des schémas, ça vous aide, si le fait de simplifier des phrases que moi je vous donne et qui sont très techniques, ça vous aide, faites-le, surtout. Moi, je tiens à la compréhension du vocabulaire juridique parce que c'est essentiel de comprendre le vocabulaire qu'on utilise entre nous, sinon vous ne comprenez pas ce que je vous dis. Mais si vous voulez vous réapproprier ce vocabulaire pour comprendre, ça peut être une excellente démarche d'apprentissage. J'ai absolument rien contre. Et une fois que vous aurez tout décortiqué et que vous aurez tout compris, là, vous verrez que la lecture de ces phrases-là, elle sera beaucoup moins compliquée. Mais il faut le faire dans ce sens-là. Voilà. Si vous ne le faites pas dans ce sens-là, vous vous planterez. Et par ailleurs, si vous ne le faites pas dans ce sens-là, c'est très simple. Hein, en fait, l'apprentissage par cœur, ça vous dure 15 jours avant le partiel. Vous le ressortez par cœur et 2 semaines après, vous avez oublié. Et 2 semaines, je suis généreuse. 3 jours après, vous ne vous en souvenez plus. Si certains ont bachoté au bac, a priori, si je vous pose des questions maintenant, voilà, les connaissances ne sont pas immenses. Ce n'est pas comme ça qu'on apprend. Allez solliciter votre cerveau. Voilà. Et c'est beaucoup plus utile. Et par ailleurs, c'est quand même beaucoup plus enrichissant pour vous que d'apprendre par cœur ce que moi, j'aurais monologué pendant 3 heures. Ce n'est pas vraiment l'enjeu. Donc ça, c'est la première application. Ça serait trop simple si on s'arrêtait là. Avant de venir sur le cas qu'on va traiter aussi, hein, ça, c'est-à-dire la question des effets futurs de la situation juridique et où on va reprendre notre exemple des enfants adultérins, des pensions pour les enfants adultérins. J'ai un cas où il faut que je vous explique et quand je vous dis, je ne veux pas que vous appreniez les formules par cœur parce que parfois la formule juridique est éminemment technique et on ne la comprend pas. Exemple topique, c'est la difficulté des délais de prescription. Alors, je vais essayer d'être claire parce que c'est des problématiques que vous découvrez. Le principe, qui est le principe qu'on va retrouver par la suite et qui est en fait le pendant de celui-là, on a dit, vous vous souvenez, les effets déjà passés de la situation juridique antérieure, on les laisse sous l'empire du droit antérieur. Donc dans notre exemple, l'enfant de 1950 à 1955, il n'y a pas de pension. À l'inverse, le principe, l'autre face de ce principe-là, c'est de dire, ok, les effets passés restent sous l'empire du droit antérieur, mais la loi nouvelle s'applique immédiatement aux situations en cours de constitution ou d'extinction, c'est-à-dire des situations qui vont dans le temps. Et c'est la question de nos délais de prescription. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un délai de prescription ? Le délai de prescription, c'est le délai que le législateur vous laisse pour agir, pour saisir un juge. Par exemple, je prends des délais complètement fictifs, on s'en fiche, c'est juste pour que vous ayez des timings dans la tête. Par exemple, vous avez 5 ans, le législateur vous laisse 5 ans de délai de prescription, donc vous avez 5 ans pour contester un contrat devant un juge. Et le point de départ du délai, c'est celui de la conclusion du contrat. Donc vous concluez, vous avez conclu un contrat avec une personne X ou Y, et puis 3 ans se sont écoulés. Et vous n'avez pas encore agi. Et au bout des 3 ans qui se sont écoulés, vous avez une nouvelle loi qui intervient, qui ne modifie pas le point de départ du délai, donc on continue toujours à compter à partir de la conclusion. Donc vous, ça fait toujours bien 3 ans. Sauf que le délai de prescription passe à 2. Et alors que jusqu'à hier, il vous restait 2 ans pour agir, puisque le délai de prescription était de 5 ans, bah vous vous levez le matin et en fait, ça fait déjà 1 an que vous ne pouvez plus agir. Vous voyez bien la difficulté, là encore, en termes de sécurité juridique. Réponse de la Cour de cassation sur cette question-là. Lorsque le législateur réduit le délai de prescription, la prescription réduite commence à courir, sauf disposition contraire, au jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que le délai total ne puisse excéder le délai prévu par la loi antérieure. Apprenez-moi ça par cœur, et ça va servir à peu près à 0. Voilà. Parce que, à comprendre, d'un coup, en première année, quand on commence, sans faire de schéma, c'est même pas la peine. Voilà. Donc vous allez parasiter votre cerveau à m'apprendre ça par cœur, et je vais en avoir 1 sur 200 qui va à peu près comprendre le sens du truc. On schématise. Qu'est-ce que ça veut dire si je détricote l'attendu de principe de la Cour de cassation là ? Ça veut dire que, si je reprends mon exemple, donc, vous avez conclu un contrat, le délai de prescription c'était 5 ans, vous avez laissé passer 3 ans. Le nouveau délai de 2 ans, qui arrive avec la loi nouvelle, il commence à courir à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. C'est exactement ce que la Cour de cassation vous dit. La prescription réduite, donc le nouveau délai de prescription plus court, commence à courir, sauf disposition contraire, au jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. Donc, ça veut dire que vous étiez sur un délai de 5 ans avant, vous concluez votre contrat, vous laissez passer 3 ans et la nouvelle loi vous dit 2. Eh bien, il vous reste 2 ans. Vous avez encore 2 ans pour agir puisque le délai commence à courir au jour de la loi nouvelle. Vous aviez déjà 3 ans dans les jambes, le nouveau délai dit 2, il vous reste 2 ans. Autre exemple. Cette fois-ci, là, est-ce que celui-là, le premier cas, tout le monde l'a compris ? Qui est paumé ? Ok, alors je recommence. Reprenez la première incise de la phrase. Si le législateur réduit le délai de prescription, donc encore une fois, dans notre exemple, avant c'était 5, ça devient 2, je dis ? Ouais, ça devient 2. Ce nouveau délai de prescription réduit. Il commence à courir au jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. Pour éviter ce que je viens de vous dire, en fait, qui serait hier, il me restait encore 2 ans pour agir. Aujourd'hui, j'ai plus de délai parce que le délai est passé à 2 ans. Pour éviter ça, la Cour de cassation vous dit le nouveau délai réduit commence à être comptabilisé, non pas au jour de la conclusion du contrat, mais au jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. Donc, dans mon exemple, la loi ancienne laissait 5 ans. Moi, j'ai conclu un contrat, puis j'ai laissé passer 3 ans. Au bout des 3 ans, un nouveau texte de loi vient dire « c'est plus 5, c'est 2 ». Pour moi, parce que ma situation avait déjà commencé sous l'empire de la loi ancienne, il me reste 2 ans comptabilisés à partir du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. Qui est paumé ? Pour qui est-ce que ça va ? Ok. Deuxième exemple. Ma loi nouvelle, elle ne me laisse pas 2 ans, elle me laisse 1 an. Le nouveau délai de prescription, ce n'est pas 2 ans, c'est 1. Qu'est-ce que je fais ? Ma loi ancienne me disait 5 ans. J'ai conclu mon contrat. J'ai laissé s'écouler 3 ans. Intervient la loi nouvelle qui dit 1 an. À partir de l'entrée en vigueur de cette loi nouvelle, j'ai 1 an. Donc, effectivement, dans l'histoire, je perds 1 an. Il m'en restait 2 puisque j'en avais déjà 3 dans les jambes. La loi nouvelle intervient. Elle fixe un délai d'1 an. Il me reste 1 an quand même. Alors, ça réduit certes mon délai de prescription, mais je ne me retrouve pas à l'abandon complètement et j'ai 1 an pour agir. Qui est paumé là ? Pour qui est-ce que ça va ? Troisième et dernière hypothèse. Le nouveau délai de prescription est de 3 ans. Moi, j'ai déjà 3 ans dans les jambes avec un délai total sous la loi antérieure qui était de 5 ans. Jusque-là, tout le monde suit. Ma loi nouvelle arrive et donc s'applique au jour de sa mise en œuvre, hein, pour moi. Et donc, ça veut dire qu'il ne me reste pas 2 ans, mais il m'en reste 3. J'ai déjà 3 ans dans les jambes, la loi nouvelle arrive et me dit maintenant le délai de prescription c'est 3 ans, il me reste 3 ans. Sauf que là, la Cour de cassation vous dit, à la fin, sans que le délai total, c'est-à-dire l'ensemble du temps qui se sera écoulé, ne puisse excéder le délai prévu par la loi antérieure. Donc je reviens, mon délai prévu par la loi antérieure, c'était 5 ans. Or, si là je fais application immédiate de la loi, j'aurais pas eu 5 ans, j'en aurais eu 6. Donc la Cour de cassation vous dit, je reste à 2 ans parce que le délai total ne peut pas dépasser le délai prévu par la loi antérieure qui était de 5 ans. Qui est paumé ? Pour qui est-ce que ça va ? Qui était paumé à la lecture de cet attendu-là ? Voilà. Et c'est normal. Hein ? Faites des schémas. Et à aucune honte hein, à schématiser. Encore une fois, que ça vous reste, formule un peu alambiquée, mais que ça vous reste du cours d'intro une fois qu'on aura terminé. Ne croyez jamais que le bon juriste, c'est celui qui vous étouffe sous le vocabulaire technique. C'est absurde de penser comme ça. Le bon juriste, c'est le contraire. C'est celui qui va réussir à vous rendre accessible un truc qui est ultra technique. Et essayez de vous former comme ça au droit. Le vocabulaire, vous allez l'acquérir, mais un perroquet, il peut l'acquérir, le vocabulaire juridique. C'est-à-dire, si vous lisez 7000 fois l'intégralité des termes qui sont dans le vocabulaire capitant, vous connaîtrez tous les termes. C'est pas ça, hein, de faire du droit. Heureusement, on s'ennuierait à mourir si c'était ça. Donc, il faut acquérir les termes. Attention à ce que moi, je ne sois pas claire pour le coup là-dessus. Je ne vous dis surtout pas de ne pas acquérir les termes. Mais je vous dis que l'acquisition des termes ou des formules ou de l'apprentissage du droit par cœur ne sert à rien si vous n'avez pas pigé ce qu'il y a derrière. Alors c'est sûr que ça fait beaucoup plus technicien de sortir l'attendu comme ça, tel quel, que les trois schémas. Il n'empêche que si demain je vous donne un cas pratique, ceux qui auront appris la formule par cœur et qui ne l'auront pas comprise vont se planter, et ceux qui auront appris par les schémas vont pouvoir résoudre le cas pratique. N'oubliez pas qu'en fait, ce qu'on attend de vous à la fin, c'est l'application du droit. C'est-à-dire qu'on va venir vous voir avec un problème et vous, vous avez les clés pour donner des solutions. Croyez-moi, les clés pour donner des solutions, elles ne viennent jamais par le par cœur. Jamais. Voilà. Donc, il faudra en passer par là sur certains trucs, certains adages que tout le monde connaît, certains... Ce serait vous mentir que de dire qu'il n'y aura pas de par cœur. Mais si vous pouvez le fuir, fuyez-le. Voilà. Et puis, encore une fois, pour vos intelligences à vous, c'est beaucoup plus stimulant d'essayer de réfléchir que d'apprendre par cœur. Donc, on a réglé la question du délai de prescription. Il y a une autre question qui subsiste et qui est celle des effets futurs d'une situation juridique née antérieurement à son entrée en vigueur. Je rappelle qu'on a déjà vu avec la non-rétroactivité de la loi que s'agissant des effets passés de cette situation juridique antérieure, il restait sous l'empire du droit antérieur. Donc, dans notre exemple de la pension alimentaire pour les enfants issus d'une relation adultère, mon enfant né en 1950, de 50 à 55, je ne peux pas réclamer de pension alimentaire. Ça, c'est réglé. Mais les effets futurs, c'est-à-dire pour garder notre exemple, mon enfant, à partir de 1955, justement, il a 5 ans, donc en 1955, est-ce qu'à partir de là, je peux demander ? Pourtant, ma situation juridique, c'est-à-dire la naissance de mon enfant, elle est antérieure. Mais les effets de cette situation, et là, dans notre exemple, la question de la légitimité à percevoir une pension alimentaire, ils se poursuivent après la loi nouvelle. Alors, pour 50-55, j'ai bien compris, c'est plié. Je ne peux pas revenir en arrière. Mais pour 55 et suivant, là, pour le coup, la règle vous dit, la loi nouvelle s'applique immédiatement aux effets futurs d'une situation juridique passée, c'est-à-dire née antérieurement à l'entrée en vigueur. Donc, dans notre même exemple, autant je ne peux rien demander entre 50 et 55, parce que la loi ne rétroagit pas, autant à partir de 55, je suis légitime à solliciter une pension alimentaire pour l'enfant né de ma relation adultère, parce que la loi nouvelle s'applique immédiatement. Et c'est pour ça, quand je vous dis « croisez-les les slides », et quand vous réfléchissez sur le droit transitoire, moi, je suis obligée de vous l'expliquer comme ça. Paragraphe 1, la non-rétroactivité. Paragraphe 2, l'application immédiate. Mais vous voyez bien, en fait, que quand on croise les schémas, on peut difficilement distinguer. Ça va être l'un ou l'autre. Où est-ce que je suis sur mon schéma ? Est-ce que je suis à l'antériorité ? Et dans ce cas-là, il n'y a pas de rétroactivité. Est-ce que je suis postérieure ? Et dans ce cas-là, la loi nouvelle s'applique. Sauf si on est dans les exceptions. Mais vous voyez que, encore une fois, hein, et légitimement, hein, c'est pas, je juge pas, ça, voilà, c'est pas, mais c'est toujours un peu une hantise l'application de la loi dans le temps. C'est parce que vous le prenez, enfin, on le prend par le mauvais bout. Si on balance les règles techniques comme ça, ouais, c'est l'enfer. En première année, ça donne juste envie de se réorienter et c'est incompréhensible. Simplifier à chaque fois. Et croyez-moi, en plus, l'effort intellectuel de simplification, il est beaucoup plus difficile que le par cœur. Encore une fois, le par cœur, donnez-le à un enfant de 10 ans, faites-lui lire 75 ou 100 fois, la centième, il la connaît par cœur, la formule aussi. Pas une idée de ce qu'il raconte. Voilà, c'est une langue étrangère pour lui, mais il la connaît par cœur. Bon, bah, je ne tiens pas à ça pour vous. Voilà. Donc, détricoter. Donc, tout ça, on est d'accord, c'est le principe de l'effet immédiat de la loi nouvelle. Principe de l'effet immédiat, j'applique aux situations antérieures, aux situations pardon, juridiques qui se constituent après l'entrée en vigueur, j'applique à l'extinction des situations juridiques postérieures, j'applique avec mes délais de prescription comme on l'a vu, et j'applique aux effets postérieurs à la loi nouvelle d'une situation antérieure, sauf en matière contractuelle. Le principe de l'application immédiate de la loi nouvelle, il connaît une exception en matière contractuelle. On retrouve l'exemple que je vous ai donné en introduction quand je vous ai dit, en fait, on conclut un bail, on a déjà 6 mois qui se sont écoulés et puis d'un coup, les règles changent.
Et en fait, nous, on s'est engagé dans un contrat en contemplation du droit qu'on connaissait. Et on ne voit pas très bien pourquoi le droit nouveau, il viendrait bousculer le droit qu'on connaissait avant. Eh bien, le législateur pense de la même manière et considère que, en matière contractuelle, et quand je dis en matière contractuelle, du coup, je parle forcément des contrats à exécution successive. Un contrat à exécution instantanée, ça n'aurait pas de sens. Mais pour les contrats à exécution successive, c'est-à-dire frise, schéma, un contrat qui commence avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle et qui se prolonge après, pour ces hypothèses-là, il y a une exception, pardon, au principe d'application immédiate de la loi nouvelle. Et il y a donc un principe dérogatoire qui est ce qu'on appelle la survie de la loi ancienne pour les contrats en cours. Pour le coup, ce principe, il veut bien dire ce qu'il veut dire, hein. On maintient en vie la loi ancienne qui n'a plus vocation à s'appliquer pour les autres contrats qui seront conclus après la loi nouvelle. Mais pour les contrats en cours qui ont été conclus avant la loi nouvelle, alors on maintient la loi ancienne. C'est une question de sécurité juridique. Voilà. Moi, je me suis engagée dans un contrat au long cours, donc ce qu'on appelle techniquement un contrat à exécution successive. Je me suis engagée au regard du droit que je connaissais. Mon exigence de sécurité juridique impose qu'on ne puisse pas venir me dire 3 jours après « Ah, par contre, on a tout changé, ça ne va plus du tout fonctionner pareil, mais tu es toujours engagée dans le contrat. » Ce n'est pas possible. Donc pour éviter ces situations-là, et donc, pour le dire plus techniquement, pour préserver cet impératif de sécurité juridique qui est essentiel, hein, la notion de sécurité juridique, vous allez la rencontrer partout, et elle est déterminante. Le droit ne peut fonctionner que parce qu'il est prévisible aussi. On sait où on va. Et c'est ce qui explique qu'on décale les dates d'entrée en vigueur de la loi, etc. La sécurité juridique, vous la trouvez partout, elle innerve l'ensemble du droit. Là, en l'espèce, bah oui, évidemment, moi, en fait, je me suis engagée en contemplation du droit qui s'appliquait à ce moment-là. Je ne veux pas qu'on me change les règles du jeu une fois que je suis déjà dans la relation engagée. Voilà. Et donc, on maintient, dans ce cas-là, la loi ancienne, elle continue à s'appliquer alors même que la loi nouvelle est entrée en vigueur. Artificiellement, on va maintenir la loi ancienne, pardon, et donc c'est bien ce que j'ai essayé. Pas génial en schéma, encore une fois, mais c'est juste pour que vous ayez pas génial en design, voilà, c'est pas mon truc. Mais que vous ayez la chronologie, loi ancienne, je conclue mon contrat, j'ai une loi nouvelle qui débarque, peu m'importe. Moi, j'ai conclu sous l'empire de la loi ancienne. Je veux le maintien de ma loi ancienne tant que le contrat durera. Si après on met fin à mon bail et que je conclue un nouveau contrat de bail, là, je serai soumise à la loi nouvelle. Mais je le saurai, voilà. On ne viendra pas me l'imposer sans que j'ai su, je ne connaissais pas le contexte, je ne me serais peut-être pas engagée dans un contrat si j'avais su, donc je veux le maintien de la loi ancienne. Le maintien de la loi ancienne s'impose, ce n'est pas une question de volonté, je m'exprime.